Donc, ce matin, on va reprendre un peu ce thème qu'on a commencé cet automne, le thème de redécouvrir. On a regardé ce thème depuis le début de la rentrée, depuis le début septembre, pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. On a besoin des fois de redécouvrir des choses avec le Seigneur. Rappelez-vous, donc on avait dit la définition du mot redécouvrir, c'est découvrir de nouveau ce que d'autres avaient découvert avec des yeux neufs. Ou bien une autre définition, c'est découvrir de nouveau ce qu'on avait oublié ou découvrir d'une façon différente. Et c'est vrai qu'avec notre cheminement avec le Seigneur, on a besoin aussi des fois de redécouvrir des choses qu'on avait perdues peut-être avec le temps. Peut-être qu'on a vécu d'une certaine routine, peut-être qu'on a continué à cheminer, puis on a oublié certaines choses qu'on a mises de côté. Et le Seigneur veut qu'on puisse redécouvrir sa grâce, qu'on puisse redécouvrir qui il est et qu'on puisse vraiment le saisir. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième thème important, c'est redécouvrir l'Église. L'Église avec le grand E. On va voir qu'est-ce que ça veut dire l'Église. Et dans ces prochaines semaines aussi, on va voir qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir l'Église locale, parce qu'on a besoin. Comme vous le savez, l'Église vit un temps difficile. Même notre propre Église vit ce temps aussi, d'autres Églises le vivent aussi. Et on a besoin de dire que Dieu est capable de renouveler l'Église, d'être capable de nous faire redécouvrir ce que veut dire l'Église. Donc, avant d'aller plus loin, on va regarder dans le prochain dia. On avait vu déjà trois thèmes, mais on va les reprendre parce qu'ils sont importants pour comprendre aussi qu'est-ce que Dieu veut nous dire, ou qu'est-ce que Jésus veut nous dire par rapport à l'Église. Le premier thème qu'on avait fait, c'est redécouvrir Jésus. On avait vu l'histoire de Nicodème. Rappelez-vous donc, ce Sanhédrin, donc, qui est venu voir Jésus en pleine nuit. Il n'était pas prêt encore à venir en plein jour, de peur d'être reconnu, pas sûr que peut-être que Dieu était Jésus-Christ et qui était. Il était intéressé à savoir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas encore reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Voici pourquoi il lui dit justement que Jésus va lui dire, il faut que tu renaisses, il faut que tu renaisses de nouveau. Dans chapitre 3, verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Là, on voit que justement Nicodème regarde la réponse de Jésus comme du côté vraiment terre à terre. Est-ce que moi, en tant qu'homme, je suis déjà assez vieux, je peux renaître, revenir dans le ventre de ma mère pour renaître? Mais nous savons que Jésus ne voulait pas parler de la naissance physique, mais de la naissance aussi spirituelle. Nicodème avait besoin justement de l'aide de nouveau, de comprendre réellement le royaume de Dieu. Il fallait qu'il aide de côté de son côté humain pour voir du côté spirituel, de voir du côté du cœur, de la foi, comment naître de nouveau avec Jésus. Et Jésus va lui répondre qu'il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Donc on voit dans cette réponse du verset 5 que en similitude justement à ce que Jésus a vécu lors de son baptême. Donc la nouvelle naissance ou naître de nouveau demande un pas de foi. On ne peut pas le faire dans une compréhension humaine, comme Nicodème l'a fait. Encore aujourd'hui, justement, lorsqu'on découvre Jésus, même si ça fait des années qu'on le connaît, on a besoin encore de le faire par un acte de foi. On a besoin de voir que Dieu nous donne tout un potentiel, toute une raison d'être avec Jésus. Et on a besoin de pouvoir l'écouter, on a besoin de le reconnaître qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Puis nous avons vu justement, prochain diapositive, redécouvrir Dieu ou redécouvrir une communion intime avec Dieu. On avait lu Jean chapitre 15, versets 9 et 10. Je vous encourage à mettre sur un petit papier parce qu'on va utiliser beaucoup de textes bibliques parce qu'on veut s'appuyer sur la parole de Dieu. On a toute la nourriture, on a tout ce qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de pouvoir aussi qu'elle nous éclaire. Alors on va écrire, vous pouvez écrire les différents passages et les méditer plus tard. Jean chapitre 15, versets 9 et 10, qui dit, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si j'obéissais à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Dans ce texte, on avait vu deux points importants. Il y a le verset où le mot aimer et le mot demeurer. Le mot aimer, c'est dans le sens agapé. Dans le sens que c'est le mot qui est le plus employé dans le Nouveau Testament. C'est vrai qu'en français, amour, on l'utilise à plusieurs versions, mais dans le texte biblique, Agapé veut dire un amour qui est profond, un amour qui est intime, qui est vrai, qui ne change pas selon les circonstances, les événements. Donc, on a besoin d'aimer Dieu de cette façon-là. On a besoin d'aimer dans un amour inconditionnel, dans un amour qui ne change pas par rapport à notre situation. Nous savons que Dieu, son amour ne change pas. Même si ça fait des milliers d'années que nous vivons, que la Terre existe, même si ça fait des dizaines d'années que nous vivons nous-mêmes sur cette Terre, nous voyons que l'amour de Dieu ne change pas. Notre amour envers Dieu peut changer, peut se refroidir. Rappelez-vous qu'on avait regardé justement le texte d'Apocalypse où de cette église qui avait perdu son premier amour. Le deuxième point est demeurer dans son amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, mais nous devons aussi demeurer en lui. Demeurer, c'est un acte d'obéissance qui vient du cœur. Pas juste quand il faut obéir parce qu'il faut obéir, mais parce qu'on le fait volontairement. Je veux demeurer dans le Seigneur parce qu'il m'a tout donné. Et c'est le défi, justement, dans la longueur, en tant que chrétien, de demeurer dans son amour, de demeurer en Christ, de demeurer en Dieu. Trop souvent, peut-être, justement, on vit selon les situations, le flux de notre vie, on a des hauts et des bas, et puis l'amour envers Dieu est la même chose des fois. On aime des fois Dieu vraiment de façon passionnée, et des fois, à un moment donné, ça se refroidit. Mais on doit demeurer en tout temps vers le Seigneur. Une phrase qui m'avait vraiment frappé dans le livre que j'avais lu, justement, un peu, de Peter 5:0, qui dit: sommes-nous des chrétiens qui agissent pour Dieu sans avoir une vie avec Dieu? Sommes-nous des chrétiens qui agissent pour Dieu? On fait les choses pour Dieu. Seigneur, je vais avec l'Église, je prie, je lis ta parole, je fais plein de choses sans avoir une vie avec Dieu. Seigneur, je veux faire ces choses pour toi. Je ne veux pas le faire parce que je dois faire une obligation, parce que le pasteur, ou bien parce que on doit le faire. Je veux le faire avec toi. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux que tu m'accompagnes dans la vie de tous les jours. On a besoin encore de redécouvrir justement cette intimité avec notre Seigneur. Le troisième qu'on avait vu, redécouvrir le Saint-Esprit. On s'est dit à redécouvrir le Saint-Esprit. En Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit: ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à vos gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ce texte nous montre que justement, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, notre corps appartient à Christ. Il vient habiter à travers son esprit en nous. Donc, notre corps nous appartient plus dans le sens que c'est plus nous qui sommes les chefs, qui faisons ce qu'on veut. On le fait à travers le Christ. On le fait que le Saint-Esprit nous dirige, nous permet d'avancer. On avait vu quatre points importants par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous, on l'a dit. Le fait que Christ demeure en nous à travers son esprit, c'est quand même une chose incroyable de savoir que nous avons le Seigneur en nous qui va pouvoir nous diriger pour nous faire avancer. Le deuxième point, on avait vu que la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement être juste dans nous, puis voilà, nous accompagner. Il veut se développer, il veut refléter Christ. Et il nous donne cette plénitude, il nous donne cette joie, cette espérance, cette paix que nous avons besoin. Le troisième, le Saint-Esprit se manifeste par des dons. Hein? Le don de l'Esprit ou le don spirituel, c'est la qualification surnaturelle qui est accordée à chaque croyant en vue de l'édification du corps du Christ. Donc on voit l'importance de chacun des dons. Il n'y a pas simplement juste des dons d'enseignement, de louange ou de prière. Il y a toutes sortes de dons que Dieu veut utiliser pour que nous puissions le servir. Le quatrième, le Saint-Esprit se manifeste en puissance. L'Esprit de Dieu est là pour pouvoir agir en puissance, pour pouvoir démontrer qui est Dieu. Il le fait à travers des miracles, il le fait à travers des signes et des prodiges incroyables. Dieu veut encore nous utiliser à travers le Saint-Esprit pour continuer de proclamer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, regardons justement qu'est-ce que ça veut dire l'Église. Et j'aimerais que on regarde quelques points importants de ce que c'est l'Église. Donc je vous rappelle que ici on parle de l'Église du corps du Christ, donc l'Église avec un grand E. Donc le mot Église vient du grec ecclesia, du verbe ekkalao, qui signifie appelé hors de. Donc Jésus a dit à ses apôtres: je vais vous réunir ensemble hors de, ça veut dire hors de que vous soyez vous en tant qu'humain, mais je vais vous sortir pour pouvoir que vous soyez un nouveau peuple, une nouvelle communauté, pour pouvoir me servir et me louer. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23 dit « Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, on voit que l'Église est comme un corps. On dit beaucoup que c'est le corps du Christ et Jésus est la tête. Chacun de nous, on fait partie de ce corps avec une fonction particulière. Comme un corps, il y a des bras, il y a des jambes, il y a différents organes et comme ça, chacun a un rôle particulier. Mais c'est toujours la tête qui dirige. C'est pas le bras ou c'est pas la jambe qui décide, ben moi je vais à gauche, puis l'autre jambe dit, moi je vais à droite. C'est la tête qui choisit pour coordonner bien, pour dire, OK, on avance tous dans la même direction. Un pas après un pas. On fait des choses avec les mains, c'est coordonné. Le défi, le problème, c'est que souvent, on a fait que l'Église, on sait que c'est le corps du Christ, mais que souvent, peut-être, c'est les hommes qui dirigent. Voilà pourquoi on voit souvent que le corps du Christ ne fonctionne pas correctement. Chacun essaie de faire un peu à sa propre façon. Et voilà pourquoi on a besoin de comprendre réellement qu'est-ce que c'est l'Église. Que ce corps est là et que nous avons une tête qui est Christ. Et c'est lui qui est le chef, c'est lui qui nous fait avancer en avant. Donc, il vaut mieux laisser justement la coordination de ce corps et surtout que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est à la tête. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui nous a rachetés, qui nous a donné une nouvelle vie. Voilà pourquoi on doit lui faire confiance. Voilà pourquoi on doit lui obéir. Voilà pourquoi que c'est beaucoup mieux qu'il dirige l'Église au lieu que ce soit l'homme humain, comme souvent, malheureusement, ça se fait quand on voit dans l'histoire autour de nous. Le deuxième point qu'on voit, c'est que l'Église est universelle. Parce que les enfants de Dieu de tous les pays, de tous les milieux font partie. Et qu'elle comprend également aussi tous les rachetés qui sont déjà partis auprès du Seigneur. Jean chapitre 11, verset 52, Jean chapitre 11, verset 52, qui dit, « Et ce n'était pas seulement pour ton peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. » On voit dans ce verset l'idée du peuple de Dieu. Dieu a toujours voulu avoir un peuple. Rappelez-vous, quand vous lisez dans le Saint Testament, Dieu a choisi un peuple. Il a dit à Abraham, je vais bénir ta descendance, je vais te faire un peuple nombreux. Et on voit tout au long du cheminement de l'Ancien Testament comment que Dieu a été avec ce peuple. Même quand le peuple a été infidèle, Dieu est resté fidèle. Dieu l'a secouru, Dieu lui a accordé la sécurité, l'amour qu'il avait besoin pour avancer. À travers la venue de Jésus-Christ, Dieu a voulu rassembler un nouveau peuple. Une nouvelle église avec tous les peuples, pas juste le peuple d'Israël, mais tous les peuples là où chacun nous. Voilà pourquoi on dit qu'elle est universelle. Le mot catholique veut dire universel. Donc l'église catholique avait bien compris cela, donc elle avait pris le nom universel, donc catholique. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on ne le voit pas de cette façon-là, mais l'église est universelle. L'église est pour chacun de nous. Et je suis toujours émerveillé de savoir que justement je peux aller dans toutes sortes de pays, que je peux aller dans une église et je vais rencontrer des frères et des sœurs qui louent le nom du Seigneur. Peut-être différents de moi, mais qui ont le même esprit pour le Seigneur. L'Église universelle. Le troisième point, c'est que justement le fait qu'elle est universelle, elle est une famille. L'Église comme une famille. Dans l'Ancien Testament, cette notion de famille ou de communauté avec le peuple d'Israël était déjà là. Dieu avait choisi un peuple pour créer une famille. L'Église, maintenant, est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Et où il y a le lien qui est fort de la foi, de l'action du Saint-Esprit qui nous unit ensemble, sous le regard de Jésus-Christ. Donc, on voit une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas de rupture. On voit comment que Dieu avait un plan précis, pour nous amener maintenant à être une alliance entre Dieu et un peuple, une communauté, pour être une famille. Éphésiens chapitre 2, verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 19, qui dit, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas quelque chose d'incroyable de savoir que nous faisons tous partie de la famille de Dieu? Voilà pourquoi on peut s'appeler des frères et des sœurs en Christ. Et comment qu'on agit pour le bien commun de la famille de Dieu, de soutenir ce lien familial, donc retenir ce lien fort entre nous. Voilà pourquoi on doit remercier jour après jour que Dieu nous a permis de faire partie de cette grande famille, qui dépasse le cadre de personnes comme on a ce matin, mais à travers le monde, à travers les âges, cette famille du Seigneur est là. Un autre aspect que nous voyons, c'est que justement, lorsque nous sommes membres de cette famille, nous sommes membres de l'Église. L'Église spirituelle, donc l'Église spirituelle, le corps mystique du Seigneur qui est à travers la tête. On devient membre par le baptême de l'Esprit.
Oui.
Et c'est vraiment discerné uniquement par les yeux de la foi. Ce n'est pas être membre comme, par exemple, on va voir plus tard, être membre d'une église locale pour avoir aussi des droits, des privilèges différents. Mais nous sommes membres, c'est-à-dire on a des privilèges, on a part à l'héritage, on a part à quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. En Corinthiens, chapitre 12, verset 27. En Corinthiens chapitre 12, verset 27, qui dit: Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Lorsque vous êtes membre d'un club, d'une organisation, un club de sport, par exemple, vous avez des privilèges que le non-membre, hein? Des privilèges aussi en tant que membre du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, c'est justement d'avoir des frères et sœurs qui sont là pour nous aider dans notre cheminement avec Dieu et les uns avec les autres. Les privilèges d'être membre de l'Église, du corps du Christ, sont que nous pouvons le louer, le nom du Seigneur, ensemble. Que nous sommes portés à lever les mains vers notre Dieu pour le remercier pour toutes les bontés qu'il nous donne. Les privilèges d'être membre de l'Église du Christ, c'est que nous recevons des dons par le Saint-Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, pour accomplir ce que le Seigneur veut, nous demande de faire. Tous ces dons que l'Esprit de Dieu nous donne sont pour l'édification de l'Église et non pour les personnes, pour nous-mêmes. En Corinthiens, chapitre 14, verset 12, en Corinthiens, chapitre 14, verset 12, je lis dans la version Parole de vie: Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. Mais pour construire la communauté rassemblée. Voilà pourquoi qu'un chrétien qui est tout seul dans son coin, c'est vrai qu'il est membre de l'Église, du corps du Christ, mais qu'il rejette les bénéfices de cette famille, de ce corps uni qui travaille ensemble. Si nous restons seuls, loin de l'Église, entre guillemets, locale, on peut dire, oui, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à la grande famille universelle du Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous puissions partager, qu'on soit ses membres de famille, qu'on puisse vivre ces liens, qu'on puisse voir c'est quoi les privilèges d'être membre d'une même famille, d'un même peuple. Mais si nous sommes seuls chez nous, ça va être difficile de vraiment le concrétiser. Un autre point que nous voyons qui est très important, c'est l'unité. L'unité de l'Église est un don de Dieu, c'est un miracle opéré par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Tout cela l'a fait à travers l'action du Saint-Esprit, qui nous relie en un seul corps tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Éphésiens chapitre 2, verset 15, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. C'est tout le travail que le Saint-Esprit fait, d'être capable de réunir deux peuples, des Juifs et des non-Juifs, qui à être ensemble. C'était tout un exploit lors de la Pentecôte, tous ces gens qui ont entendu le message de l'Évangile et qui se sont convertis. Ils ont vu vraiment la bonté de voir Dieu qui n'était pas juste pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Mais on a vu bientôt qu'il y a eux commencé à nouveau avoir la réalité humaine, dans le sens qu'il y en a certains qui pensaient que, bon, on privilégiait peut-être plus les Juifs par rapport aux non-Juifs. Donc il y a eu un peu des dissensions, il y a eu un peu des fois des divisions. Voilà pourquoi que les apôtres ont désigné des diacres pour s'occuper de ces choses-là, pour qu'eux puissent continuer à se concentrer sur l'enseignement. Donc, on voit qu'aujourd'hui, que l'unité, encore dans l'Église, est toujours aussi fragile. Comment on doit être prêt à accepter celui qui est assis à côté de nous, celui qui est différent? Dans l'Église, on choisit pas les personnes qui sont à côté de nous. Peut-être elle vient d'un peuple ou peut-être elle vient d'une tribu qui était différente de nous. Combien de fois je vois, j'entends dans les églises que oh, moi, je ne peux pas me rassembler avec des chrétiens parce que son peuple a fait tellement de mal dans mon pays avant. Et lorsqu'on est régénéré dans le Christ, lorsqu'on est une nouvelle créature en Dieu, lorsque nous sommes une famille, ces choses-là sont enlevées. C'est vrai que peut-être qu'il y a encore des blessures, mais Dieu est capable de les guérir, Dieu est capable de les restaurer. Voilà pourquoi nous devons être unis ensemble. Jean 17, verset 21 le dit bien. Comment que Christ démontre qu'il est uni au Dieu le Père? Je te demande qu'ils soient tous un. Ça, c'est Jésus qui prie. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Nous croyons, je le crois, que malheureusement, l'impact de l'Évangile, de l'Église, du corps de Christ n'est pas complet à cause de ce manque d'unité. Combien de fois qu'on voit que l'Église est divisée, combien de fois que l'Église se bat l'un envers l'autre, au lieu de dire nous avons tous le même Christ. On n'a peut-être pas tous les mêmes pratiques, on n'a pas tous les mêmes façons de louer le Seigneur, on n'a pas tous peut-être la même interprétation de certains textes, mais nous avons tous reçu Jésus-Christ, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, qui nous permet de cheminer, d'avancer, qui nous permet de laisser peut-être des différences de côté pour pouvoir regarder ce qui nous unit ensemble. Alors qu'encore ce matin, on démontre que nous sommes une famille unie. On vient de différents lieux, de différentes cultures, de différents pays. Et le lien qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Et je crois qu'on a besoin que l'Église puisse démontrer cela, comment que nous sommes unis à travers les peuples, à travers peut-être les interprétations, à travers peut-être les façons de faire des choses différentes, que le monde puisse voir que nous sommes unis sous le regard du Seigneur. Mais tout pour cela, pour arriver à être capable d'être unis, pour être capable d'être membre, pour être capable justement d'être une famille, il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est la foi. La foi dans l'Église. Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ. Il nous a permis de le connaître, de voir qu'il pouvait nous apporter de son amour et de pardonner nos péchés. Mais tout cela a besoin de la foi pour que nous puissions le croire. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, même si on ne le voit pas, mais d'accepter de remettre notre vie entre les mains de notre Seigneur. Ce pas de foi nous amène à entrer dans la grande famille de Dieu et d'avancer encore par la foi jour après jour pour cheminer et grandir dans la connaissance de Dieu et dans la volonté qu'il a pour nous. Acte chapitre 16, verset 5. Acte chapitre 16, verset 5, il dit: Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Lorsqu'on voit cette première église, lorsqu'on voit comment qu'ils ont été capables, justement, capables d'être unis malgré leurs différences, et qu'ils ont pu vraiment ensemble créer cette famille, cette communauté, être capables de s'affermir les autres par la foi et de pouvoir toucher le monde autour de nous. Nous sommes encore le fruit de cette église. Nous sommes encore le fruit de pas de foi de ces personnes. On a besoin de voir l'importance de la foi et de voir aussi encore aujourd'hui que nous avons besoin de cette foi pour dire Seigneur, je dépasse peut-être mes compréhensions humaines, peut-être par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines personnes qui ne sont pas comme moi, qui sont des chrétiens mais qui peut-être font des choses différemment. Je veux marcher par la foi pour pouvoir développer cette église, grandir dans ta foi, grandir dans ma foi, dans mon cheminement avec toi, et pour que cette foi puisse te voir aussi à l'extérieur. Le Seigneur veut encore nous donner cette foi pour accomplir de grandes choses, comme des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Comment on prie? On prie pour les malades, on prie pour les différentes situations. On a la foi que Dieu entend nos prières et que Dieu va répondre pour que Dieu puisse continuer d'amener un impact autour de nous. On sait que la parole, il a dit, est-ce que nous allons trouver encore la foi à la fin des temps? Et c'est vrai. C'est vrai qu'on peut très bien continuer l'église, continuer de faire les activités, d'être bien ensemble, de continuer de nous appeler frères et sœurs, de nous encourager, mais où la foi n'est plus présente, où il y a peu de foi, il y a peu de choses qui changent. On a besoin de redécouvrir vraiment aussi qu'est-ce que c'est la foi en Dieu. Mais tout cela ne peut pas se faire sans la présence et l'action du Saint-Esprit. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître Jésus-Christ. Le plan nous faire comprendre le plan qu'il a pour nous. De suivre sa volonté que nous retrouvons dans sa parole. Lorsqu'on est justement transformé par Jésus-Christ, lorsqu'on est pardonné, lavé de nos péchés, lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu, alors le Saint-Esprit est là pour nous aider à grandir dans cette famille, dans l'Église. Si le Saint-Esprit agit en nous, il faut qu'on le laisse agir. Il ne faut pas simplement nous donner, reprendre le contrôle. Il faut qu'il puisse prendre toute sa manifestation. Voilà pourquoi on a dit que justement le corps ne nous appartient plus. Il appartient à Christ. Nous sommes le temple du Seigneur. Il a besoin que vraiment d'agir pleinement à travers tout. Et dans l'Église, c'est la même chose. Si le Saint-Esprit ne conduit pas l'Église, ça va être simplement un rassemblement de bonnes personnes où il n'y aura pas d'action, pas de puissance du Saint-Esprit qui sera manifestée. Regardez Actes chapitre 9, verset 31. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galatie et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, on voit comment le Saint-Esprit était présent dans l'Église pour faire progresser, pour faire que ces personnes deviennent des véritables disciples et pour amener d'autres personnes à Christ. Il faut aujourd'hui encore que le Saint-Esprit soit présent dans l'Église et puisse agir librement afin de nous changer, afin de nous transformer, afin que sa puissance soit manifeste aussi à travers nos actes, à travers aussi la parole du Seigneur. Et le dernier point que nous allons regarder, c'est que qu'on va aborder dans ce prochain temps, c'est l'Église est locale. Dans le Nouveau Testament, donc, au début, si vous regardez, la communauté chrétienne était rassemblée comme une Église. Et voilà pourquoi on utilisait beaucoup, plusieurs fois, même le mot Église avec un grand E majuscule. Regardez dans Actes chapitre 8, verset 1. Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. On voit dans le texte, et si vous lisez dans plusieurs textes des Actes, qu'il parle toujours l'Église de Jérusalem, l'Église de Antioche, ou même les Églises d'Antioche. Donc, il n'y avait pas juste un rassemblement unique à Jérusalem. À 3000 personnes, on ne peut pas se rassembler tous ensemble. Alors, ils se rassemblaient dans différents lieux selon le nombre de personnes qu'ils pouvaient. Mais c'était l'Église de Jérusalem. Ce n'était pas l'Église méthodiste ou l'Église baptiste ou l'Église pentecôtiste ou comme ça, non. L'homme a choisi après de mettre une différence. Mais Dieu avait dit, c'est l'Église de Jérusalem. Parce qu'ils avaient tous le même Dieu, ils avaient tous le même but d'adorer, de continuer de servir Dieu à travers l'Église. Mais Dieu avait prévu, Jésus-Christ avait prévu que l'Église soit locale. Dans le sens que ce ne soit pas juste un terme, je veux dire, de dire ah, l'Église est universelle, on est ce corps spirituel, mais on doit ce rassemblement, on est une famille, on se rassemble sous une égide d'une Église locale. Donc, ça pourrait comme dire aujourd'hui qu'il y a des Églises à Montréal. Les gens pourraient dire, mais quelles sont les Églises? Ben, il y a des Églises à Montréal. Qui se réunissent à Saint-Henri, qui se réunissent peut-être à Côte-Vertu ou peut-être à Papineau, mais c'est l'Église de Montréal. C'est la volonté de Dieu que nous soyons une famille unie, sous le règne de Jésus uniquement, et rassemblés ensemble en tant que l'Église locale. Alors même si aujourd'hui on se rassemble sous différents noms, nous devons avoir cette pensée de l'Église du premier siècle. On doit agir comme l'Église de Jésus-Christ, qu'on veut faire réellement ce que Dieu nous demande de faire. Et être inspiré par le Saint-Esprit pour avancer. Alors, pour terminer, rappelons ces différents points que nous avons vus. Ces points importants pour pouvoir redécouvrir réellement qu'est-ce que ça veut dire être l'Église. L'Église est un corps avec Jésus-Christ qui est la tête, qui est le chef. L'Église, elle est universelle. Elle est ouverte à tous les peuples, quel que soit leur âge, quelle que soit leur tribu, leur nationalité. L'Église est une famille. Voilà pourquoi on s'appelle des frères et sœurs dans le Seigneur. On fait les choses ensemble. On s'unit ensemble. On s'apprécie ensemble parce qu'on est tous, on est ensemble pour pouvoir progresser. L'Église est unie pour marcher ensemble sous le regard de Jésus-Christ. De vivre cette unité de plus en plus. L'Église est aussi, nous sommes tous membres dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur. Donc l'Église, on est membre de l'Église. Nous développons cette foi dans l'Église. On a besoin que cette foi progresse, chemine, afin que l'Église puisse amener encore d'autres personnes au Seigneur. Que l'Église puisse continuer de rayonner de la gloire de Dieu à travers ses actes. Tout cela se fait par la présence et l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avancer en tant qu'Église. Et que finalement, l'Église est locale. Jésus a prévu des rassemblements locaux. Et on va voir dans ces prochains temps qu'est-ce que ça veut dire être une Église locale. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour pouvoir vraiment être l'Église selon le cœur de Dieu. Alors simplement, couvrons notre tête, prenons un temps de prière maintenant. Réalisons que le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui que peut-être on a une certaine conception peut-être de l'Église, de ce que Jésus voulait pour l'Église. Peut-être qu'il y a des points où vous êtes moins à l'aise. Peut-être qu'il y a des points où vous avez l'impression que ce n'est pas la vérité. Je vous encourage à laisser le Saint-Esprit continuer à travailler en vous. Laissez le Saint-Esprit continuer à vous faire progresser. Allez regarder dans la parole de Dieu ce qui est-il, pour que nous puissions comprendre ce qu'il est réellement. Qu'est-ce que c'est l'Église? Et quel est notre devoir en tant que membre de cette Église, en tant que famille de l'Église? Comment est-ce qu'on doit marcher par la foi dans l'Église? Comment est-ce que nous sommes universels, unis ensemble? On doit continuer de prier pour cette unité parce que je crois que si tant que l'Église est divisée, il y aura peu de puissance. On sait qu'un royaume qui est divisé ne peut pas régner. Et l'ennemi utilise toutes sortes de stratégies encore aujourd'hui pour diviser les chrétiens. Et pendant ce temps-là, au lieu de faire l'œuvre du Seigneur, on fait simplement d'essayer de réparer peut-être les divisions, les tensions entre nous. Alors comprenons réellement ce que Jésus nous invite à devenir dans cette Église. Qu'est-ce qu'il a prévu pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église du premier siècle nous a démontré? Peut-être ce qu'on a perdu, ou ce qu'on a peut-être dévié, ou ce qu'on a manqué, ou on a peut-être lâché ou enlevé. Pour que voir où est l'Église en ce moment. Seigneur, on te remercie pour ce rappel de ce que tu voulais avec la communauté de l'Église. Que tu voulais faire avec tes premiers disciples, ce que tu leur as montré pour qu'ils puissent mettre en pratique par la suite tout ce que tu leur avais enseigné. Tu leur avais dit que tu n'allais pas les laisser seuls, mais que tu allais leur donner le Saint-Esprit qui allait les guider, qui allait leur montrer. Et Seigneur, lorsqu'on voit l'Église, dans les actes, on est émerveillé de voir comment que cette Église a progressé, a cheminé, comment qu'elle a changé le monde. Seigneur, tu nous fais réaliser aujourd'hui, peut-être qu'on a encore besoin de réaliser qu'on a perdu certaines choses de l'Église. Peut-être qu'on a perdu d'être une véritable famille qui est soudée, qui est capable de se soutenir les uns les autres. On a perdu peut-être l'unité à cause de nos perceptions, de nos interprétations différentes, de nos croyances, de notre façon de faire les choses. Peut-être, Seigneur, on a oublié que tu étais le chef, tu étais la tête. Et que nous sommes tous membres de ce corps, chacun qui agit pour le bien de ce corps. Seigneur, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi qu'on a besoin pour grandir, progresser, pour voir encore ta puissance se manifester dans l'Église et autour de l'Église. Saint-Esprit, viens encore nous révéler qui tu es. Viens nous révéler encore plus la volonté de Dieu. Viens nous révéler tout le mystère de l'Église que tu as donné à l'humanité pour que nous puissions vraiment réaliser tout le cadeau que tu nous as donné. Pour que nous puissions réaliser que nous avons une tâche à accomplir. Pour pouvoir être représentant, ton représentant, pour construire le règne de Dieu sur terre à travers l'Église. Alors merci, merci pour l'Église, merci pour l'Église locale, merci pour toutes les diversités d'Églises qui existent à travers le monde. Seigneur, tu n'es pas surpris par les différentes façons de louer, de chanter ou même peut-être certaines interprétations. Tu es capable, Seigneur, de nous voir tous ensemble, réunis. Permets, Seigneur, que nous puissions être l'Église que tu aimes. Que tu sois le seul chef de ce corps. Que ce soit ton esprit qui nous guide, qui guide aussi l'Église. L'Église de Montréal, l'Église du Québec, l'Église du Canada, l'Église du monde entier. Afin que nous puissions accomplir ta volonté, accomplir ce que tu as prévu pour l'humanité. Nous voulons être justement ces ambassadeurs, ces témoins de ta grâce, de ton amour, de ta résurrection autour de nous. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, afin qu'encore de cette semaine, tu puisses continuer cette réflexion pour nous faire découvrir qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux nous impliquer dans ce travail du corps. Comment tu veux que nous marchions par la foi encore plus pour redécouvrir l'Église, pour revitaliser l'Église, pour renouveler l'Église, afin qu'elle soit à ta seule gloire. Bénis chacun de nous, Seigneur, que nous puissions refléter dans tout ce que nous sommes, jour après jour, là où tu nous mets, l'Église, le corps universel de tous les chrétiens, et qu'on puisse te réjouir de faire partie de cette Église, de se réjouir de tout ce que tu fais encore à travers l'Église. Alors, Seigneur, maintenant que nous allons bientôt nous quitter, on te demande encore que cette grâce, cette paix, cet amour que tu nous as donné demeure en nous, jour après jour, et que nous puissions rester dans cette paix, dans cette confiance, et que tu continues d'être là par ton esprit en nous, et que tu vas continuer de nous donner ta grâce, ta bénédiction jusqu'à ton retour. Nous te prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.